chaîne mondiale, je ne vous apprends rien, mais les événements majeurs se multiplient et s'empilent, s'ajoutent les uns aux autres. Ce n'est pas surprenant parce que ce sont là des signes précurseurs vers de grands bouleversements, plus grands encore, qui vont finalement mener bientôt au retour tant attendu du Christ pour mettre fin à ce monde de souffrance. Maintenant, ce qui compte pour nous dans tout ça, c'est quoi? Ce n'est pas de savoir tout le détail de ce qui se passe et de ce qui va se passer. On en suit les grandes lignes. Et ce n'est pas de savoir l'horaire précis de ce qui vient non plus. Le plus important dans tout ça pour chacun des membres de l'Église, c'est de savoir quelle sera notre condition spirituelle à la fin de notre route. Que la fin de notre route soit avant le retour du Christ, si nous décédons avant, ou que la fin de notre route soit au moment du retour de Christ, alors que nous serons changés en un instant si nous sommes encore vivants. Est-ce que nous allons être prêts? Et dans ce sens-là, reportez-vous à Matthieu, chapitre 25. Dans ce sens-là, voyons ce qui est mentionné concernant les vierges folles et les vierges sages, qui représentent l'ensemble de l'Église au temps de la fin. Matthieu 25, nous allons lire les versets 6 à 10. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, le retour du Christ, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges, toute l'Église, se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent, on n'a pas suffisamment. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous, parce que les membres de l'Église qui ont assez d'Esprit Saint ne peuvent pas donner leur Esprit Saint à d'autres. Chacun doit s'assurer d'accumuler de l'Esprit Saint en procédant de façon précise. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Autrement dit, procurez-vous-en vous-même. Pendant qu'elles allaient en acheter, ces vierges folles qui n'en avaient pas suffisamment, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Là, il y a un point majeur qui se produit. La porte est fermée. Voyez-vous, si nous sommes prêts au moment où le Christ va revenir, c'est que nous aurons tenu bon, c'est que nous aurons persévéré jusqu'à la fin, malgré les hauts et les bas, malgré les combats amenés, malgré les difficultés, malgré les périodes de découragement, nous aurons tenu bon grâce à l'aide de Dieu. C'est d'ailleurs là la première condition dont le Christ a parlé dans Matthieu 24, verset 13. Je vous le cite simplement. Première condition, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors voyez-vous, ce n'est pas seulement une directive du Christ, mais c'est aussi un avertissement, comme de quoi il faut nous assurer, et c'est possible de le faire, nous assurer d'être vraiment prêts lorsque le Christ reviendra. Ne pas faire l'erreur de nous dire, quand les choses vont être plus graves et comme plus claires, quand ça va arriver, là j'aurai du zèle. Là je mettrai les bouchées doubles pour me préparer et je serai prêt. Non. Là, je vais regarder autour les autres qui sont prêts et je vais me désoler en espérant avoir ce qu'il faut, mais ce sera tard. Le titre de mon message aujourd'hui, « Comment persévérer jusqu'à la fin? » Et c'est possible. Écoutez, depuis 40, 50 ans, il y a des membres de l'Église qui ont persévéré, qui ont tenu le coup dans toutes sortes de circonstances. Parfois épouvantable. Vous seriez surpris de voir parfois ces gens-là sont passés. Ils sont encore là. Ils ont tenu le coup. Grâce au Christ. Parce qu'ils ont resté proches du Christ et ils ont fait en même temps ce qu'il fallait faire. Ils sont là. Donc, c'est possible de tenir bon. Mais, par ailleurs, plusieurs sont tombés. Un grand nombre ont abandonné. Pourtant, je dois dire qu'au moment de l'appel, ils avaient tous de très bonnes intentions. Ils voulaient atteindre le but que Dieu leur avait montré et rendu disponible. Ils ont fait comme les Israélites ont malheureusement fait quand ils ont été délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Et dans ce sens-là, ils nous ont laissé un exemple à ne pas suivre, justement. Reportez-vous à 1 Corinthiens chapitre 10, s'il vous plaît. C'est ce que Paul nous rappelle. Premier livre aux Corinthiens, chapitre 10, et nous allons lire les versets 1 à 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, nos ancêtres, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et ce baptême-là ne pardonnait pas leur faute, bien sûr. C'était un baptême symbolique. Qu'ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Donc, les mêmes conditions de départ pour tous. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, le Dieu de l'Ancien Testament, était le Christ. Était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alors, voyez-vous, l'apôtre Paul nous rappelle ces situations-là pour que nous ne tombions pas dans le même piège. Alors, pour nous aider à persévérer aujourd'hui, nous allons voir trois pièges ou trois dangers à éviter. Il y en a d'autres, mais c'est trois pièges importants. Le premier piège à éviter, oublier Dieu. Oublier Dieu. Ce n'est pas dans le sens d'oublier que Dieu existe. Ce n'est pas non plus dans le sens d'oublier le nom de Dieu. Absolument pas. C'est dans le sens de ne pas pratiquer au mieux ses commandements de façon régulière, mais plutôt de faire des compromis avec ce que nous connaissons de la loi de Dieu, ce qui nous amène, inévitablement, si on le fait, à nous éloigner de Dieu et même à nous détourner de lui. Voilà le piège. Et c'est ce qui est arrivé à tous les Israélites qui sont sortis d'Égypte, sauf deux. Comme vous le savez, Josué et Caleb, dans tout l'ensemble des Israélites. Et c'est malheureusement aussi ce qui est arrivé à la deuxième génération des Israélites qui sont sortis d'Égypte, ceux qui sont entrés finalement dans la terre promise sous la direction de Josué. Pourtant, et encore là, ça fait partie de l'avertissement qu'on doit recevoir, pourtant, ils connaissaient très bien qui était arrivé à leurs parents, qui étaient sortis d'Égypte, la main levée, tellement contents d'être libérés. Ils se sont fait raconter ce que leurs parents ont vécu. Que les parents avaient oublié Dieu, qu'ils étaient détachés de lui et qu'ils étaient morts au désert. Ils les ont vus mourir au désert parce qu'ils étaient la deuxième génération. Alors, ceux de cette deuxième génération avaient aussi bénéficier eux-mêmes des miracles nombreux et constants de Dieu pendant 40 ans. Pendant ces 40 ans au désert, chaque jour, qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez les textes. Leurs vêtements ne se sont pas usés ou détériorés pendant ces 40 années-là. Leurs chaussures ne se sont pas détériorées, absolument pas. Et chaque jour, ils avaient la manne comme nourriture. Ils n'avaient pas besoin de travailler. C'était une abondance extraordinaire. Ils ont été dans des conditions formidables. Ils ont eu de la manne chaque jour, comme vous savez, sauf le sabbat, parce que Dieu leur montrait par là qu'il y a une période de temps chaque semaine qui appartient à Dieu et qu'on doit respecter totalement. Alors, on pourrait penser que dans ces conditions-là, ça aurait été impossible d'oublier Dieu. C'était des conditions idéales. Pourtant, Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont oublié leur grand Dieu qui leur avait accordé toutes ces bénédictions. Dieu les avait avertis de ce danger-là. Pourquoi? Parce que Dieu connaît très bien les êtres humains et leurs limites, et il connaît nos tendances naturelles, les tendances naturelles du cœur humain, qui sont très bien décrites pour chacun de nous dans la Bible. Et c'est pour ça que Moïse avait averti cette deuxième génération-là, avant qu'ils entrent en terre promise, de ne pas oublier Dieu. Reportez-vous à Deutéronome chapitre 8, s'il vous plaît. Le livre de Deutéronome, le 8e chapitre. Et nous allons lire les versets 11 à 14. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Et après, il va dire, c'est quoi oublier Dieu? Il donne la définition tout de suite. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements et ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et il revient ensuite au verset 19 en reprécisant, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu mets autre chose de plus important dans ta vie que Dieu, si tu les sers, ces dieux-là, et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Voyez-vous, c'est un ou l'autre. C'est vraiment très, très clair comme route à suivre. En arrivant en terre promise, il y a un test. Il y a un test précis qui attendait d'ailleurs cette deuxième génération. Comme on le verra, c'est que Dieu n'a pas enlevé de la terre promise les nations indigènes qui vivaient sur ces territoires-là avec leur Dieu, avec leur passé, avec leur croyance. Dieu ne les a pas enlevés. Pourquoi? Pour voir s'ils lui obéiraient et pour voir s'ils le mettraient de côté et l'oublieraient en pratiquant les choses que ces gens-là pratiquaient plutôt que de mettre en pratique ces commandements. La même chose qu'il fait avec nous. Quand Dieu nous appelle, il n'enlève pas de notre chemin tous les obstacles, absolument pas. Tout ce que nous avons à vivre, ce sont des tests pour nous, pour que Dieu voit si on sait vraiment à lui appartenir et à faire toute la route qu'on a à faire pour se rendre jusqu'au bout. Reportez-vous à Juges, chapitre 3, s'il vous plaît. Le livre des Juges, pas loin après Deutéronome. Juges, chapitre 3. Verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa. Et oui, il décrit les nations qui étaient en terre promise. Voici les nations que l'Éternel laissa. Pourquoi? Pour éprouver, pour tester par elles, Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Et oui, c'était pour les tester. Dieu veut dans son royaume. Dieu veut que lui appartiennent ceux qui désirent vraiment de tout cœur lui appartenir par foi et par le, pour lui prouver que notre cœur est vraiment à lui. Versets 4 et 5 maintenant. Lisons versets 4 et 5. Ça rappelle un peu le même principe. Il dit ceci, « Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement, qu'ils avaient prescrit à leur père par Moïse, et les enfants d'Israël habitèrent, bien sûr, au milieu des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébuséens. Donc, ils se sont retrouvés au milieu de ces nations-là, qui n'étaient pas des nations converties, qui appartenaient à Dieu. Et, malheureusement, comme on voit après, ils ont agi contrairement à ce que Dieu leur avait dit, et contrairement aux lois de Dieu. Versets 6 et 7. Ils prirent leurs filles pour femmes. Voyez-vous, les filles de ces nations-là pour femmes. ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Ils se sont mêlés à ces nations-là et ont adopté leurs coutumes. Verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals, les faux dieux et les idoles. Pourtant, rappelez-vous, Dieu avait bien dit et plusieurs fois, garde-toi d'oublier l'Éternel en ne observant pas tous ses commandements. Et eux, dans leur cas, un des problèmes qu'ils ont rencontrés, c'était la prospérité comme test. Parce que là, ça s'était mis à bien aller. Il n'y avait pas seulement ce test-là, il y avait aussi le test des coutumes autour qui pouvaient être attrayantes et les inviter à faire la même chose. Ça devenait disponible, ces tentations-là. Alors là, ils avaient des décisions à prendre pour voir s'ils s'attachaient à Dieu ou non. Et c'est toujours ça, nos décisions, nos choix qu'on a à faire. Et ce sera comme ça jusqu'au bout. Nous sommes tous soumis à différentes sortes d'épreuves, de tests, constamment, constamment, pour vérifier notre fidélité, absolument. Par exemple, c'est un test d'être pauvre. C'est un test d'être dans la pauvreté. Nous l'avons été, mon épouse et moi, dans grande pauvreté même. Et M. Armstrong a été dans grande pauvreté. Et c'est un test. C'est un test aussi d'être dans l'abondance. Exactement. Est-ce que je vais servir Dieu alors que je suis pauvre, continuer à le servir ou non? Et si je suis dans l'abondance, est-ce que je vais penser que je n'ai plus besoin de lui, que tout va bien, ou si je vais continuer à faire attention pour lui plaire et rester attaché à lui? Même chose en ce qui concerne la santé et la maladie. Si je suis malade ou si je suis en santé, quelle que soit la situation, est-ce que je vais rester fidèle à Dieu? Est-ce que je vais compter sur lui? Est-ce que je vais continuer à travailler de tout cœur, à vivre selon ses lois, malgré les défis que ça représente? D'ailleurs, pour nous aider à être sur nos bases et pour nous aider à savoir comment agir, c'est-à-dire comment continuer à vivre selon ses lois pour persévérer, l'apôtre Paul nous rappelle l'expérience de ces Israélites. Reportez-vous à Hébreux. Hébreux, le troisième chapitre, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 3, nous allons lire les versets 7 à 13. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et nous qui sommes appelés, que nous soyons dans l'Église tout récemment ou depuis plusieurs années, nous entendons sa voix. Nous avons entendu sa voix pour respecter son sabbat, pour être enseignés, pour le prier, pour garder ce temps pour lui, à sa gloire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, comme c'est notre cas, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères, vos ancêtres, me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 années. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Ici, la traduction n'est pas précise. Le mot original, vous pouvez voir, c'est « ils n'ont pas suivi mes voies ». Parce que pour les connaître, ils les ont connues. Dieu leur a révélé ces voies, mais ils ne les ont pas suivies. Ils n'ont pas suivi mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère. Là, ça s'adresse à l'Église à l'époque, mais à nous aujourd'hui. Prenez garde, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Il parle ici à des gens qui ont été appelés au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, il est clair, comme Paul le mentionne ici, qu'il est possible, une fois d'avoir été appelé, et de se détourner par la suite du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. On a besoin de s'entraider, de s'encourager. Aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », donc c'est encore possible que j'avance vers Dieu, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et c'est toujours là que notre talon d'Achille, la séduction du péché, l'attrait vers le mal, d'arriver à faire des compromis de plus en plus. Voyez-vous, à force de faire des compromis, on peut s'endurcir en ne pratiquant pas les lois de Dieu au mieux, en faisant des petits détours, en changeant des choses pour accommoder selon notre désir. À force de faire des compromis, quand on regarde l'histoire, on voit que les Israélites avaient endurci leur cœur au point de perdre de vue même le Dieu vivant. Que les Israélites étaient devenus de moins en moins sensibles aux directives et aux commandements de Dieu. Écoutez, ce qui endurcit le cœur, c'est de suivre progressivement l'attirance trompeuse du mal, de suivre la séduction de la transgression des lois divines. Je vais vous donner un exemple qui peut nous aider à comprendre. Dans un sermon ancien, l'évangéliste qu'on connaît bien, M. John O'Gwin, a donné un bon exemple de ce que j'appellerais la force brutale qu'exerce l'attirance du mal sur tous les êtres humains. Ce n'est pas le même mal qui attire autant un humain que l'autre, mais la force du mal, elle est attrayante et elle exerce sa force sur nous. C'est le cas d'un homme qui avait été condamné plusieurs fois au cours de sa vie à la prison. Un criminel endurci. Beaucoup de crimes liés à l'alcool, parce que l'alcool amène à prendre des décisions mauvaises, à faire des choses horribles, des crimes liés à la drogue et à plusieurs autres problèmes. Et cette fois-ci, cet homme-là était incarcéré déjà depuis pas mal longtemps. Et ce qui est arrivé, c'est que dans sa prison, il est venu en contact avec la pure vérité à l'époque. Alors, il a découvert le plan de Dieu. Il a été encouragé de découvrir que Dieu existe, qu'il y a des lois, qu'il y a un but pour les êtres humains, qu'il y a un but à l'existence humaine. Alors, il a commencé à vraiment changer. Il a été enthousiasmé. Et il est même devenu ce que j'appellerais un prisonnier modèle. Il a suivi diverses cures de réhabilitation. Il a suivi parfaitement le programme des alcooliques anonymes. Il rendait service. Il avait très bonne réputation. C'était devenu un prisonnier modèle. Puis, le temps a fait son temps. Et rempli de bonnes intentions, le jour est venu où il a été libéré. Ce qu'il a fait à ce moment-là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas de lieu d'habitation, il est retourné habiter avec sa mère. Et il a été béni parce que les membres de sa famille se sont cotisés pour lui acheter un vieux camion pour qu'il soit capable de voyager à son travail s'il y avait un travail. Et pas longtemps après, il a trouvé un travail. Tout encouragé, la vie venait de changer, une vie nouvelle devant lui avec les connaissances qu'il avait, avec le but qu'il avait découvert dans la loi de Dieu. Première semaine de travail, vendredi après-midi, le salaire, la paye arrive. Et là, les collègues l'invitent, bien sûr, comme ça se fait régulièrement, à prendre une bière à la taverne à l'époque, parce que ça remonte à plusieurs années, à prendre une bière à la taverne. Alors, voyez-vous, dans son cas, plutôt que d'avoir planifié, d'avoir décidé d'éviter toutes les occasions, il ne s'est pas méfié. Sans prudence ni méfiance, il y va. Il ne refuse pas la première bière, bien sûr, pour ne pas déplaire à ses compagnons. Et il a aimé la deuxième, la troisième, les autres, et le crack également qu'il s'est procuré. Donc, il s'est retrouvé aussitôt dans la même situation qu'il était auparavant. Tout a basculé. Le problème, l'attirance trompeuse du mal. Dans son cas, c'était l'alcool. Vous savez, c'est très facile d'être sobre en prison. C'est très facile d'être sobre en prison si on n'a pas accès à l'alcool et aux drogues, comme c'était souvent à l'époque, il y a plusieurs années. Remarquez bien que Dieu n'a pas empêché Adam et Ève d'avoir accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il n'a pas empêché nos premiers parents d'en prendre. Il aurait pu les empêcher, mais il ne devait pas le faire parce que Dieu veut avoir dans sa famille des gens qui auront volontairement choisi de vivre selon ses lois et même d'en payer le prix ou d'en souffrir à certains égards pendant un certain temps. Alors Dieu ne les a pas empêchés. Ça fait partie de son plan. Et c'est exactement la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu ne vous empêche pas, ni vous ni moi, il ne nous empêche pas de faire le mal. Absolument pas. Il nous dit de ne pas aller sur cette voie, mais il ne nous en empêche pas. Dieu nous donne toujours le choix de rejeter le mal et de faire le bien avec son aide, parce qu'on a besoin de son aide pour faire le bien. Mais comme le dit Jérémie 17, verset 9, Jérémie 17, verset 9, je vous le cite tout simplement, et c'est notre cas à tout le monde, le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et après, Dieu dit, moi, je connais le cœur humain. Qui peut le connaître? Nous-mêmes, on a de la difficulté à connaître notre cœur. Il faut que Dieu nous révèle nos fautes, qu'il nous montre dans sa bonté ce qu'on a changé pour que nous le voyions. Souvent, nous ne le voyons même pas. Et humainement, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à raisonner, à rationaliser, à trouver des excuses pour faire de tout petits compromis qui nous accommodent, ce qu'on a à faire, ou pour faire des choses, ou pour garder des choses qu'on ne devrait pas garder, mais qu'on aime à garder. On trouve des excuses pour faire de petits compromis, et par après, de plus en plus de petits compromis, jusqu'à des plus gros compromis. Ce qui nous endurcit progressivement le cœur, qui endurcit progressivement notre conscience. Dans quel sens? C'est que ça nous rend moins perceptifs du mal. On voit moins le mal, mais on voit moins les conséquences dangereuses du mal, la transgression des lois de Dieu. Écoutez, c'est comme une petite brebis, là, qui se laisse attirer progressivement par l'herbe qui est de plus en plus verte vers l'orée de la forêt. C'est dans la forêt que se trouve le loup, absolument. Mais elle s'en va de plus en plus, ne se méfiant pas, voulant tirer avantage de ce qui fait son affaire. Mais là se trouve le loup qui l'attend. Comme la Bible nous dit, comme le lion rugissant qui cherche qui il dévorera. Si nous faiblissons sur certains aspects, que nous nous laissons aller sur certains aspects, il va en profiter pour nous nourrir dans ce sens-là, pour nous amener à nous détourner progressivement de Dieu. Vous pourrez voir ça dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Et vous savez, Satan a l'art de nous transmettre toutes sortes d'idées. La Bible nous dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Et comme une télévision ou une radio qui émet des ondes, Satan émet des ondes, Satan émet des pensées dans notre esprit, souvent, et il faut faire attention aux pensées qui nous viennent. Il ne faut pas réagir ou obéir, je devrais dire, à toutes les pensées qui nous viennent. Parce que ce ne sont pas toutes les pensées qui viennent de nous. Il y a bon nombre des pensées qui nous viennent du prince de la puissance de l'air. Il envoie ses pensées, et là, on a le choix de les garder ou pas. C'est pour ça que dès qu'il y a une pensée qui nous vient, qui n'est pas de Dieu ou qu'on réalise qu'il n'est pas correct, on ne doit pas la garder et on ne doit pas se laisser influencer ou orienter par cette pensée-là, et souvent par les émotions qui accompagnent cette pensée-là. Parce que là, on est sur une voie dangereuse. Ou parfois, ce sont des pensées de culpabilité, de fausse culpabilité envers quoi que ce soit. Si on garde ces pensées de fausse culpabilité, alors qu'on sait que Dieu nous a pardonné toute notre vie passée au moment de notre baptême, s'il y a des choses anciennes qui nous reviennent comme ça, c'est parce qu'on n'a pas vraiment compris que le jour de notre baptême, Dieu a tout effacé notre vie passée, que tout ce qu'on a fait de mal, même si on fait rappel aujourd'hui, pour lui, ça n'existe plus. Ça a été pardonné. Alors, si l'adversaire a l'art de nous ramener ça pour nous ralentir en nous faisant penser que Dieu ne nous a pas pardonné, c'est faux. Comprenez-vous? Alors, il nous faut à ce moment-là résister tout de suite au moment où ces pensées-là viennent, les rejeter et dire non, je n'accepte pas ça. Et aller vers une pensée concernant Dieu qui nous aide, les pensées plus positives. Absolument. Alors, on ne doit pas garder toutes les idées qui nous viennent. Ça ne vient pas toutes de nous. Des fois, c'est des choses que nous, on pense, ou des souvenirs qui nous sont rappelés. C'est correct si ça ne va pas à l'encontre de Dieu, tout simplement. Quel changement est-ce que j'ai fait dans ma vie au cours des derniers mois ou des dernières années? Ça, c'est une bonne question qu'on peut se poser pour s'aider à tenir le coup jusqu'au bout, pour voir qu'on soit en train de continuer à progresser. Pour s'encourager, on a besoin de cet encouragement-là. Quel changement est-ce qu'on a fait au cours des derniers mois, des dernières années? Ou qu'est-ce qu'on a commencé à faire différemment? Et le voir, dire merci à Dieu de nous l'avoir montré, de nous avoir donné la force de le faire et de nous aider à continuer. Parce qu'il faut réaliser que chacun de nous est à risque d'être séduit par le péché. On est à risque, Paul l'a dit tantôt très clairement, on est à risque d'être séduit par le péché en faisant des compromis de plus en plus, ce qui nous amène à endurcir notre conscience, avoir de moins en moins la laideur du mal et à retrouver l'appréciation des tentations des lois de Dieu qu'on a aimées. Voyez-vous, si nous nous donnons la permission, ou si nous nous permettons consciemment, en le sachant, de faire quelque chose de contraire aux lois de Dieu, là, on est en train d'endurcir notre conscience. Par contre, je fais une précision ici. Il ne s'agit pas ici de fautes qui nous arrivent tous de commettre par faiblesse ou par inattention, ou de fautes qui sont plus longues à vaincre et sur lesquelles on continue de travailler. Ce n'est pas de ces fautes-là dont je parle. Je parle de fautes quand nous nous donnons consciemment la permission de transgresser. Voyez-vous, ce n'est pas la même chose, là. C'est qu'on joue sur une autre patinoire. On est en train de se permettre, en sachant, de transgresser les lois de Dieu un petit peu ici et un petit peu là. Là, on est sur la pente dangereuse d'endurcir notre conscience. C'est important que je fasse ces nuances-là et qu'on sache ce qui se passe. Parce que, voyez-vous, chaque fois que nous nous permettons de faire des choses qui sont contraires aux lois de Dieu, en le sachant, là, on est en train de faire des compromis et là, notre conscience s'endurcit. C'est là qu'est le risque. Chaque fois, par exemple, que nous nous permettons de regarder quelque chose que nous ne devrions pas regarder, que nous savons, on est en train d'endurcir notre conscience. Chaque fois que nous faisons des choses que nous savons ne pas devoir faire consciemment, mais que nous le faisons quand même, nous sommes en train de nous affaiblir et de solidifier, pour ainsi dire, notre conscience. De même, chaque fois que nous disons des choses que nous avons conscience de ne pas devoir dire, mais que nous les disons quand même, que nous ne nous arrêtons pas au bon moment, à ce moment-là, nous sommes encore en train d'endurcir notre conscience. Chaque fois que nous pensons à des choses que nous savons ne pas être en accord avec la loi de Dieu, nous sommes en train encore d'endurcir notre conscience. J'ai pris la peine de vous donner des exemples comme ça pour qu'on voit de quoi il s'agit, qu'on soit sur nos gardes, pour qu'on puisse utiliser l'information que Dieu nous donne pour savoir comment lutter, comment résister à ça. Parce que chaque fois, nous devenons un peu plus insensibles au mal lorsque nous faisons ces choses-là. Vous savez, il y a un tel exemple, c'est ça que je connais personnellement, c'est comme un travailleur manuel qui est soumis à des durs travaux des mains, là, jour après jour, plusieurs heures par jour. Je me rappelle, c'était le cas de mon frère le plus vieux dans la famille qui avait soin de toute la ferme. Il allait bûcher régulièrement dans le bois, il s'occupait du troupeau, il réparait les machineries. Et je me rappelle de ses grosses mains calleuses, là. Il y a une peau très, très épaisse, toute sanguinée, là. Quand on lui donnait la main, c'était dur à, vraiment à toucher, là. On sentait que la peau était vraiment dure, la peau était épaisse. Mais c'est ça, c'est qu'il avait endurci la peau de ses mains en travaillant manuellement. Et nous, on endurcit notre conscience elle change aussi lorsqu'on fait des compromis dont je vous parle. Je pense que l'exemple nous aide à vraiment comprendre. On devient moins sensible au commandement de Dieu et à ce qu'on doit faire. Alors, bien sûr, au début, quand on fait des petits compromis, on se sent coupable un peu au début. C'est là qu'est le temps d'agir. C'est tout de suite qu'il y a le temps d'agir. Il ne faut pas laisser aller les choses, laisser porter les choses, parce qu'on s'affaiblit. Et plus on répète la chose, plus ça devient facile de la répéter. C'est le temps de réagir, de se repentir tout de suite, de demander pardon à Dieu, de demander son aide, de partir dans l'autre direction et d'emplir notre esprit avec des choses belles, des choses bonnes, des choses qu'on attend, ou de prier pour les autres, ou de travailler à soutenir l'œuvre de différentes façons. Sinon, si on ne fait pas ça, le compromis nous inquiète de moins en moins. Je redécris ça dans l'autre sens. Sinon, le compromis nous inquiète de moins en moins. On le répète plus facilement et on est absorbé de plus en plus dans ce qu'on fait et notre première nature, l'ancien homme, revient à la surface. Vous savez, le film qu'on ne devrait pas regarder devient de plus en plus acceptable si on continue à le regarder. Rappelez-vous, le prisonnier décrit par M. Orwell. Il n'est pas allé à la taverne avec ses amis en se disant « Mon but, là, c'est de retourner en prison le plus rapidement possible. » Cette idée-là ne lui est pas venue à l'esprit. Il n'a sans doute pas pensé au risque non plus. Dans son cas, il me semble que non, sinon il aurait pris des dispositions. Il n'a sans doute pas pensé au risque, sinon très brièvement, il l'a rejeté de suite parce que le désir d'aller à la taverne était plus grand que le restant, et ça fait partie du convoi également. Sinon, il a baissé la garde en pensant qu'il était capable d'affronter la situation. Il pensait qu'il était capable d'affronter la situation et qu'il pouvait s'exposer au risque sans craindre de rien, alors que tout était à craindre. Alors, voyez-vous, c'est ainsi que notre conscience peut s'endurcir progressivement par des transgressions répétées, par des compromis répétés. Par exemple, je donne quelques exemples pour que ça devienne encore plus réel. Travailler un peu au sabbat après le coucher du soleil. Pas beaucoup, mais un petit peu. Continuer à travailler alors que le soleil est couché. Ce qu'on doit faire, si on appartient à Dieu, c'est de se préparer d'avance pour le sabbat, de tout classer ce qu'il faut pour que quand le sabbat arrive, qu'on puisse entrer calmement dans ce 24 heures qui appartient exclusivement au Créateur de l'univers. Alors, c'est un petit compromis que certains se sont permis de faire dans le passé et qui les a amenés plus loin quand ils l'ont répété. Autre exemple, ne pas se rendre à la sainte convocation quand rien ne nous en empêche. Quand raison majeure nous empêche d'y être, pas de problème. Mais c'est un compromis dangereux de ne pas se rendre à la sainte convocation qui est un ordre de Dieu, de se présenter physiquement pour être ensemble devant lui pour la sainte convocation. C'est un ordre que Dieu nous donne. Mais de ne pas venir quand il n'y a rien de véritable qui nous empêche d'y aller, c'est un compromis qui peut, avec d'autres choses et avec sa répétition, nous amener loin de Dieu. Participer aux festivités et aux repas du temps de Noël et du jour de l'an, ce n'est pas à nous. Ce ne sont pas des fêtes divines. Ce sont de beaux pièges. Ça peut être attirant de ne pas vouloir perdre l'amitié des nôtres ou des membres de notre famille. Mais nous, qui avons été appelés par Dieu à être des pionniers d'une nouvelle civilisation, nous devons nous tenir sur nos deux pieds, avertir les nôtres, poliment, gentiment, ne pas créer de problème, bien sûr, mais ne pas participer à toutes ces festivités, à tous ces repas de famille qui prétendent être pour le bien de la famille. Mais c'est toujours dans le cadre des fêtes païennes de Noël et du Nouvel An. C'est ça qu'il faut voir. C'est à ça qu'il ne faut pas participer. Autre exemple de petit compromis qu'on peut faire et qui est dangereux, ne pas verser régulièrement et entièrement à Dieu le 10% total de sa dîme. Parce que ça lui appartient. de notre salaire de travail ou de nos intérêts qu'on retire par les placements qu'on peut avoir. Dieu demande qu'on lui verse 10% de notre salaire de travail, salaire net de travail, et 10% de nos revenus de placement ou d'intérêt. Alors, on ne doit pas jouer avec ça. Si on commence à jouer avec ça, c'est toujours le même principe. Petit à petit, ça va dans la même direction. Ne pas aider ou encourager quelqu'un qui en a besoin quand nous avons la possibilité de le faire. Souvent, on a la possibilité d'encourager quelqu'un, de prendre le temps d'écouter la personne ou de lui apporter de l'encouragement ou de l'aider de différentes façons. Si on peut le faire, Dieu dit « faites-le ». Alors, si je ne le fais pas, voyez-vous, je fais des compromis avec la loi de Dieu qui nous est donnée. Et ça s'applique dans l'ensemble de toutes les lois de Dieu. Les Israélites qui sont sortis d'Égypte sous la direction de Moïse se sont laissés endurcir par la séduction du péché. C'est leur histoire. Au départ, ils avaient tous l'intention d'entrer en terre promise. Ils ne visaient pas mourir au désert, ce qui leur est arrivé. C'est la même chose pour la deuxième génération, celle qui est entrée en terre promise. Ils ont malheureusement fait des compromis, ils ont oublié graduellement Dieu, et ils ont été, comme conséquence, amenés en captivité. Écoutez, nous affrontons les mêmes dangers, en principe. Mais nous, dans notre cas, ce qui est formidable, c'est que nous avons le Saint-Esprit de Dieu pour faire toute la différence. Nous pouvons crier à notre grand Dieu et à notre grand frère pour nous aider. Reportez-vous à Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Lisons les versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ça, c'est ceux qui sont appelés maintenant. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Versets 15 et 16 du même chapitre. Commençons au verset 14. 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui est prêt à nous aider n'importe quand, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toute chose. Il sait par quoi nous passons, sans commettre de péché dans son corps. Verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce pour être pardonnés parce qu'il nous arrive de manquer notre coup, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et c'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit pour nous secourir, pour nous aider à passer à travers. Deux éléments ici. Un, croire Dieu. Et deuxièmement, agir en conséquence en comptant sur l'aide de Jésus-Christ. Ce qui m'amène au deuxième danger à éviter. Deuxième piège à éviter pour être capable de persévérer, c'est laisser les moments de découragement prendre le dessus et nous arrêter ou nous ralentir. C'est qu'on ne doit pas, je le mets dans l'autre sens, on ne doit pas laisser les moments de découragement qui nous arrivent tous. On a tous des moments de découragement. On ne doit pas laisser les moments de découragement prendre le dessus, continuer autrement dit, et permettre à l'adversaire de jouer là-dessus. On ne doit pas garder les moments de découragement et les laisser prendre le dessus. Pour éviter cela, on demande l'aide directe de Jésus comme on vient de voir, comme les gens de foi qui sont décrits dans Hébreux 11. Reportons-nous à Hébreux 12, par contre. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Lisons les versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les hommes et les femmes de foi mentionnés dans Hébreux 11 qui ont passé à travers toutes sortes d'épreuves, qui ont réussi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché. Rejetons tout fardeau, rejetons les moments de découragement, ne les gardons pas, et rejetons tout péché, éloignons-nous du mal pour être fort. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous attire, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? Regardez notre force ici. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi. Oui, c'est lui qui nous donne la foi. Chaque foi, il en a besoin. C'est un fruit du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Afin, regardez bien, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, que vous ne vous laissiez pas aller au découragement. Lui a tenu le coup et il est prêt à nous aider à tenir le coup dans de telles circonstances. C'est des encouragements dont on a absolument besoin. Alors, en d'autres termes, ce qu'il nous dit, ne pas laisser la fatigue spirituelle, ou je dirais l'usure du temps, quand ça fait longtemps qu'on est dans l'Église, ne pas laisser la fatigue spirituelle ou l'usure du temps nous affecter et nous ralentir. On est dans une course spirituelle sur une longue distance. Sur une longue distance. Bien sûr, c'est un marathon spirituel. Et comme dans les marathons physiques, c'est vers la fin de la course, vers la ligne d'arrivée, en approchant la ligne d'arrivée, que la fatigue se fait le plus sentir. Comme c'est le cas physiquement dans un marathon, sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est là que la fatigue risque d'être la plus lourde. Comment résister avec succès, même si humainement on a un creux de vague, ou même si humainement on se voit incapable d'y arriver? Il s'agit de compter sur le Christ et de continuer de vivre selon ses enseignements avec constance, avec son aide. C'est la recette. Ça nous vient de lui, mais nous avons notre rôle à jouer. Regardez Hébreux 12, versets 12 à 14. Hébreux 12, versets 12 à 14. C'est pas pour rien qu'il ajoute ce passage-là ici, après ce qu'on vient voir, où il vient nous dire « Ne vous lassez point l'âme découragée ». Mais il sait qu'on a des moments de découragement. Regardez, il mentionne ici, versets 12 à 14. « Fortifiez donc vos mains languissantes, vos mains qui deviennent lourdes à force de porter des fardeaux, à force de lutter. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis avec le temps et avec les circonstances. Nos genoux deviennent affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. » Donc, ça veut dire ceci. Continuez dans la voie droite qui vous a été montrée. Et vous allez être capable de continuer si vous faites les efforts que vous avez à faire avec l'aide de Dieu. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alors voyez-vous, en faisant cela, nous devenons plus forts parce que nous marchons dans les sentiers de Dieu et c'est ce qu'il veut nous voir faire. Et il nous soutiendra davantage dans ce cas-là. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Il faut avoir notre grand but en tête, absolument. Un très grand but. Se concentrer sur le fait de vivre en paix avec tous, même avec ceux qui ne sont pas gentils envers nous. Même envers ceux qui ne sont pas gentils envers nous. Être en paix avec eux, les respecter, savoir qu'ils ne peuvent pas comprendre pour l'instant parce qu'ils ne sont pas appelés. La personne qui est appelée, c'est vous et moi. Alors, c'est à nous de faire le pont entre ces situations-là. Alors, se concentrer sur vivre en paix avec tous et obéir à Dieu. Maintenant, un dernier piège à éviter rapidement pour tenir bon jusqu'à la fin, pour persévérer, c'est rester fidèlement attaché à notre but, au grand but dont je vous ai parlé. Rester fidèlement attaché aux promesses divines infaillibles. Et ça, il faut vraiment décider consciemment de le faire. Il faut consciemment décider d'avance, je vais rester fidèle à mon engagement de baptême. Je vais rester fidèle à mon grand Dieu qui a tout fait pour moi. Je vais y tenir. Les promesses de Dieu, on les regarde de loin. Il faut les voir de loin. Il faut les considérer parce qu'elles sont là et elles sont infaillibles. Les garder à l'esprit. certaines aides. Il pensait, avec reconnaissance, prendre le temps de dire pour chaque promesse que nous réalisons, dire merci à Dieu. Dire comment il a fait ces choses-là dans notre vie. Lui expliquer en détail. Dieu veut nous entendre dans ce sens-là. Régulièrement relire ces promesses-là. Ça, ça nous nourrit. Et même les écrire. Je connais des gens qui écrivent les promesses de Dieu dans un cahier, ou qui écrivent en même temps dans leur cahier les promesses que Dieu a réalisées envers eux. Et parfois, ils relisent ces choses-là quand les situations sont plus difficiles, parce que ça leur rappelle que Dieu étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, il va continuer à faire la même chose pour eux. Être persuadé de ça, s'y attacher avec hope. C'est la recette du succès des gens de foi qui ont réussi, qui sont décrits dans Hébreux 11. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et regardez le verset 13. Hébreux 11, verset 13. On résume ici concernant tous ces gens-là qui leur est arrivé en bout de ligne. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, les choses les plus lointaines qui avaient été promises, parce qu'ils ont reçu au cours de leur vie plusieurs bénédictions qui avaient été promises. Mais les choses principales étaient à venir. Et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils attendaient quelque chose de beaucoup plus qu'il y a à attendre de cette vie maintenant. Et si on regarde de proche, il y a trois éléments qui se dégagent de l'attitude qui leur a permis de réussir, leur a permis à ces gens-là de tenir bon. Un, ils ont vu les promesses, comme nous les voyons. On peut les lire, les relire, les écrire, s'en encourager. Ils ont vu les promesses. Deuxièmement, ils ont été persuadés et convaincus de ces promesses-là et du fait que Dieu accomplit infailliblement, toujours, à la lettre, ses promesses en son temps et à sa façon. Premièrement, ils ont vu les promesses. Deuxièmement, ils ont été persuadés de ces promesses-là. Et troisièmement, ils s'y sont attachés de tout leur cœur. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous rappelle cette réalité essentielle. Je vais simplement vous citer, vous n'avez pas besoin d'y aller. Dans Colossiens chapitre 3, verset 2 et verset 4. Colossiens chapitre 3, verset 2, Paul nous dit ceci. Attachez-vous solidement aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qu'on a à attendre de ce qui reste du monde actuellement? Qu'est-ce qu'on a à attendre de ce monde-là autour de nous? Actuellement, aujourd'hui, on a vu trois moyens efficaces pour nous assurer de persévérer jusqu'à la fin. Premier moyen, ne pas oublier Dieu. On sait comment? C'est en s'appliquant chaque jour à vivre selon ses lois, avec son aide. Deuxièmement, demander l'aide du Christ pour ne pas laisser les moments de découragement prendre le dessus. Premièrement, ne pas oublier Dieu. Deuxièmement, demander l'aide du Christ pour ne pas laisser les moments de découragement prendre le dessus. Et troisièmement, rester fermement attaché, chérir les promesses fantastiques de Dieu. De son côté, l'apôtre Jean nous rappelle que c'est le monde à venir qui compte vraiment. Celui-ci va disparaître bientôt. Je vous cite le verset, vous pourrez aller le lire vous-même plus tard, 1 Jean 2, verset 17. Le monde passe, c'est ce qu'on voit actuellement. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà l'ultime promesse que Dieu fait à ses serviteurs fidèles. Voyez-vous, le monde malheureux est hautement attirant autour de nous, il est en voie de disparaître. D'ici quelques brèves années, cette actuelle civilisation humaine sera, je dirais, jetée dans la poubelle de l'histoire. Elle sera jetée dans la poubelle de l'histoire. On en parlera comme hier. On dira que c'était le monde d'avant. on dira que c'était l'ancien monde qui est heureusement disparu. Et à ce moment-là, Dieu va confier la construction du nouveau monde à ses serviteurs qui auront persévéré. Rêvons-en avec reconnaissance.